Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Bien, eh bien, on y va. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi l'idée saugrenue de faire l'exposé que je vais vous faire m'est venue. En sous-titre, vous avez vu, j'ai mis « Histoire et fonctionnement d'une innovation d'Internet ». Le mot « histoire » est presque provocateur, puisque, comme vous le savez, Wikipédia n'a que 10 ans. Donc, parler d'une histoire de quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans, c'est de l'histoire immédiate, on va dire. Mais c'est Internet, c'est la vitesse du monde actuel. Donc, on essaiera de le faire. Une aventure étonnante, c'est effectivement étonnant que ça ait marché, ou que ça marche. Et on va voir pourquoi. Enfin, on va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est bien une aventure. Je pense, j'essaierai de vous le démontrer. Alors, pourquoi faire ce type d'exposé? Eh bien, tout simplement, nous faisons, comme vous le savez, on a un groupe qui s'appelle Groupe Patrimoine Écrit de Bourgogne, avec puissamment représenté dans la salle, fait des recherches historiques et qui, à la fin de leurs travaux, font nous publions le résultat de leurs travaux sous la forme d'un livre. Le dernier qui est sorti, il est consacré à Claude Hénoc-Viré, donc qui est un homme du 16e, 17e, et qui a été, entre autres choses, mais achetez le bouquin, vous saurez ce qu'il a fait, qui a été maire de Chalon à 5 reprises au début du 17e et qui a construit ce qui est aujourd'hui la sous-préfecture qui s'appelait avant l'hôtel de Viré. Donc c'est un notable local, un personnage local. Et évidemment, mais après qu'on ait fait le bouquin, j'ai fait moi-même l'exercice, j'ai mis Claude Hénoc-Viré dans Wikipédia, catastrophe, il n'y avait pas de fiche. Il y a tout dans Wikipédia, ben, il n'y avait pas Claude Hénoc-Viré. Alors, quand il n'y a pas l'affiche, eh bien, on l'a fait. Et là, entre l'intention de le faire et le faire effectivement, puisqu'on l'a fait, je vous le montrerai, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple que ça. Donc, c'est un des aspects que j'essaierai d'évoquer dans cet exposé. Et deuxièmement, qu'il y a toute un environnement qui est un peu caché, si vous voulez, quand on ne fait que de la recherche et de la lecture sur Wikipédia, qui est méconnu, sinon inconnu. Mais si on fait l'effort de le chercher, Wikipédia s'est fait pour ça, tout est à l'intérieur du moteur, il suffit d'ouvrir les bons placards pour lire ce qu'il y a dedans. Ce que j'ai fait. Et plus vous ouvrez des placards, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, hein. Ça n'arrête pas. Quand vous ouvrez une porte, vous envoyez 10 nouvelles, et c'est un monde extrêmement foisonnant, extrêmement complexe, dont je vais essayer, très modestement, de vous faire toucher du doigt les différentes pistes. Et j'espère qu'à la fin de cet exposé, chez vous, si vous utilisez déjà Wikipédia, vous irez plus loin que de lire simplement les fiches. Voilà. Alors, je vais essayer, et c'est difficile, je suis un bavard impénitent, c'est pour ça que je fais des conférences, de faire un exposé le plus ramassé possible pour qu'on puisse avoir, dans la limite de 16 heures, puisqu'il y a certaines personnes qui souhaitent qu'on s'arrête à 16 heures, qu'on puisse avoir un petit échange avec la salle, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion d'aller sur Wikipédia. C'est parti. Alors, si on parle d'encyclopédie, il faut faire des histoires d'encyclopédie. Donc j'ai fait à très grande maille, qu'est-ce que ça veut dire encyclopédie? Je vous ai mis l'étymologie. Donc, dedans, kyklos, c'est le cycle, enfin l'aspect circulaire, et l'éducation, c'est-à-dire on tourne à l'intérieur d'un système de connaissances, on va dire, hein. Les œuvres d'Aristote, on peut considérer, même s'il n'a pas utilisé le mot, qu'elles constituent, c'est une œuvre encyclopédique. On les a beaucoup critiquées après, mais elles ont eu au moins le mérite d'avoir été écrites et l'histoire ait permis que l'essentiel en soit préservé. Et ça a constitué le socle de la scolastique, qui a été après très critiquée par les Lumières, l'humanisme, etc. Mais ça existe. Pline l'Ancien a fait aussi une œuvre à caractère encyclopédique. Les musulmans ont fait des encyclopédies, qui sont restées malheureusement que dans le monde musulman, avec la barrière de la langue, qui est encore beaucoup plus difficile que les langues latines et alphabétiques. Des encyclopédies chrétiennes, modestes. Maïmonide, donc là c'est la transition entre le monde antique et le monde moderne. Et je vais m'arrêter un petit peu sur l'encyclopédie de Yongle. Yongle, on ne dit pas Yongle, Yongle. Donc c'est le grand empereur du début de la dynastie Ming, qui a fait faire une encyclopédie chinoise, bien sûr, et dont la taille était tout à fait considérable, puisque vous voyez, il y a 370 millions de caractères. Donc on va dire, si on voulait parler en mots, vous divisez par deux, puisque un mot chinois, c'est en moyenne, c'est deux idéogrammes. Alors ça, on n'en parle jamais, on croit que l'encyclopédie, ça a commencé avec l'encyclopédie de Diderot, ce qui est complètement faux. La vraie première encyclopédie, je dirais, européenne, c'est Francis Bacon, qui était petite, le Novum Organum, qui était, on va dire, un clone. Il a voulu reprendre la démarche d'Aristote, c'était le nouvel Aristote, mais moderne, du début du XVIIe siècle, Francis Bacon, qui était, qui a été, le mot n'existait pas, mais enfin, on va dire, le premier ministre sous l'époque d'Élisabeth Ier. Donc, c'était vraiment un noble de très haut niveau et qui était un intellectuel tout à fait brillant, puisque c'est lui qui est à l'origine de la philosophie expérimentale. Hein. C'est-à-dire, il faut se baser sur les résultats de l'expérience pour acquérir la connaissance. Voilà l'idée principale de Bacon. Bayle, c'est un Français, mais qui était aussi en Angleterre, puisque il y avait beaucoup d'émigrés, et qui a fait un dictionnaire historique et critique, qui a eu un certain écho en son temps, donc fin du XVIIe. Autre démarche qui est méconnue, qui est tout à fait parallèle à celle de l'encyclopédie dont on va parler à la troisième ligne, l'encyclopédie de Diderot, c'est l'Académie des sciences, Réaumur, après diverses péripéties. En fait, c'est même Colbert qui, dès le départ, l'Académie des sciences française a été créée en 1666 et tout de suite, elle a demandé à ce qu'il y ait un ouvrage synthétique qui décrivent les arts et métiers, c'est-à-dire la technique et les métiers. Pour des raisons diverses et variées, l'Académie, c'est pas connu, c'était déjà le cas à l'époque, c'est pas des foudres de guerre, entre l'intention de faire quelque chose et la réalisation effective de cet ouvrage, eh bien, il s'est passé presque un siècle. Puisque entre 1666 et 1761, vous voyez que presque un siècle pour que les premiers ouvrages sont sortis pratiquement à une année près, en même temps que les premiers volumes de l'encyclopédie de Diderot. D'ailleurs, je pense que le fait que l'encyclopédie de Diderot sorte a été un aiguillon fort, mais celui qui a vraiment fait démarrer ce travail-là, c'est Réaumur. Réaumur qui est un physicien du début du XVIIIe siècle, et qui a laissé son nom, par exemple, à des thermomètres, hein, mais enfin, maintenant, c'est obsolète. Et donc, en 1761, il était mort, mais ses continuateurs ont poursuivi son œuvre. Et donc, cet ouvrage a été édité de 61 à 82. Ensuite, en Angleterre, à nouveau, Chambers, Cyclopédia, en 1728, qui a été l'amorce de l'encyclopédie de Diderot. Puisque le projet initial de l'encyclopédie, avant que Diderot soit dans le circuit, c'était de traduire en français l'encyclopédie de Chambers. Il y a eu beaucoup de péripéties. D'ailleurs, si ça vous intéresse, nous allons faire une animation avec la bibliothèque municipale au mois de mai, avril et mai de l'année prochaine, puisque la bibliothèque municipale a le privilège d'avoir la première édition complète en 37 volumes, tous les volumes de texte plus tous les volumes de planches. C'est, il y en a moins de 1000 dans le monde entier, donc il y en a une à la bibliothèque de Chalon. Et donc c'est magnifique parce que c'est des bouquins in folio, donc on vous montrera ça et on vous racontera un petit peu dans le détail comment ça s'est passé. Donc l'encyclopédie de Diderot, 20 millions de mots, j'ai mis ce chiffre-là pour le rapprocher de Jungle, c'est-à-dire l'encyclopédie française, qu'on présente comme un monument, c'était 7% de l'encyclopédie chinoise. C'est pour vous donner la dimension du travail des Chinois, une fois de plus. Alors après, bon, on revient à des choses qui sont plus connues. L'Encyclopédia Britannica, qui est très ancienne, hein, qui date du XVIIIe siècle. L'Encyclopédie d'Yverdon, qui est un clone de l'Encyclopédie de Diderot, qui a été édité en Suisse. Pankouk, qui est aussi un clone, une continuation de l'Encyclopédie de Diderot. La Deutsche Encyclopédie, voilà. Et maintenant, on arrive à Brockhaus Encyclopédie. Excusez-moi pour l'accent, le Larousse, l'Encyclopédia Universalis, et donc les encyclopédies sur CD-ROM, DVD, telles qu'on a pu les connaître dans la fin du XXe siècle. Et maintenant, on arrive aux encyclopédies en ligne, donc la Britannica et Wikipédia, dont on va parler largement. Alors, comment est venue l'idée de faire une encyclopédie sur Internet? Dès qu'Internet a existé, elle est venue à l'esprit des intellectuels, c'était évident. Mais comment faire ça? Et donc le premier projet qui a vraiment pris corps, il s'appelait Nupedia, évidemment américain. Et donc les deux fondateurs s'appelaient Jimmy Wales et Larry Sanger. Jimmy Wales, j'ai mis sa photo, Larry Sanger je ne l'ai pas mise, mais vous la trouverez sur Wikipédia bien sûr, puisqu'on verra après que ces deux personnages se sont séparés pour des raisons à la limite philosophiques, puisque la philosophie de Wikipédia et la philosophie de Nupedia, ou ce qui a succédé à Nupedia, sont totalement différentes. Donc le principe de base, c'était le même que celui de toutes les encyclopédies, comme celle de Diderot, c'est qu'il y a des auteurs qui sont des spécialistes reconnus dans leur matière, qui rédigent des articles et qui sont vérifiés par leurs pairs, ce qu'on appelle la peer review en anglais, et en plus on rémunère les auteurs. Donc ils ont lancé cette chose-là. Au bout d'un an, ils avaient 12 articles. 12. Donc ils ont dit, il y a un problème, ça marche pas, la pompe ne s'amorce pas. Alors, tout à fait indépendamment de ça, l'évolution de l'informatique a fait qu'on a trouvé, enfin on a mis au point ce qu'on appelle Wiki. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre, Wiki? Wiki, ça veut dire « vite » en hawaïen, puisque les bus qui vont de l'aéroport d'Honolulu en ville, s'appellent des Wiki Wiki Shuttle. Et ça veut dire vite vite, Wiki Wiki. Alors pourquoi ça veut dire vite? Simplement, c'est un outil informatique qui permet à quelqu'un qui est un utilisateur de créer un site internet, et sans être un spécialiste de la technologie d'internet. Aujourd'hui, le site de l'UTB, ça s'appelle pas Wiki, mais c'est un logiciel qui a la philosophie du Wiki. Donc c'est comme dans Word, on tape ce qu'on veut taper, on appuie sur un bouton, tout ce qui doit se faire se fait, et on voit apparaître sur le site internet la modification que l'on a faite. Donc c'est pas spécifique à Wikipédia. Maintenant, tous les sites internet que vous voyez sur internet sont fabriqués avec des outils de ce type-là. Jimmy Wales a dit, eh bien, ce qu'on va faire, on va dire aux gens qui sont intéressés par ça, autour d'un petit noyau, évidemment ça a commencé comme d'habitude en Californie, vous allez faire des articles encyclopédiques. Et, Et là, au contraire de la démarche Nupédia, ça marchait et ça a explosé tout de suite, puisque vous voyez, je vous montrerai des courbes de statistiques, le succès a été immédiat et très rapide. La version française, vous voyez, janvier 2001 pour le début de la démarche, le 11 mai 2001, il y avait des Français qui commençaient à créer des articles. Donc c'était très court. Et c'est pas des Français qui sont allés physiquement en Californie, c'est le miracle d'Internet. Tout ça s'est fait dans la communauté des internautes, de gens qui communiquaient sur ces sujets. Une des raisons du succès aussi, c'est que des règles, on va dire, de syntaxe, de présentation, de standardisation de la présentation, ont été posées dès le départ, et on a demandé à ce que les gens qui amorçaient la pompe les suivent. Et, miracle, enfin, entre guillemets, ça a marché. Larry Sanger, donc, qui était porteur du projet Nupédia, qui a capoté, s'est fâché, on va dire, avec Jimmy Wales, en disant, mais c'est pas sérieux, ça, puisque finalement, c'est, d'une part, c'est des gens qui sont pas spécialisés, enfin, on sait pas qui c'est, et chacun écrit, enfin, on n'a pas de contrôle sur les sources, enfin, pas sur les rédacteurs, plus exactement. On a des contrôles sur les sources, puisque un des principes de Wikipédia, comme je rentrerai dans le détail, c'est de citer ses sources. Et donc, le système académique de rédaction des encyclopédies était battu en brèche. Donc, il a dit, je vais faire quelque chose, un clone de Nupédia, qui s'appelle Citizendom, j'en parlerai tout à l'heure, et aujourd'hui, Citizendom a 15 000 articles. Wikipédia en a 14 millions. OK ? Alors, les principes de Wikipédia, j'ai déjà un petit peu parlé. Encyclopédie coopérative, constituée et maintenue par ses utilisateurs. Donc ça, c'est presque une idéologie, on va dire, d'une certaine manière. Outils informatiques unifiés à leur disposition, le wiki, les wikis. Règles de fonctionnement démocratique, j'y reviendrai. Les principes déontologiques sont proposés et votés. Il y en a. Il y a de l'autorégulation. Et surtout, en particulier, c'est peu moins connu, ça, il n'y a pas de ressources liées à la publicité. Wikipédia ne fonctionne que par des dons. C'est comme la Croix-Rouge. Et comme Médecins sans frontières. Il n'y a pas de publicité. Quand il n'y a plus de sous, on fait un appel de fond. Il y a un petit bandeau qui apparaît en haut de tous les articles Wikipédia. En général, ça marche très bien. Il y a un appel de fond qui dure un mois. Ça y est, on a assez de sous. Arrêtez d'en donner. On a de quoi tenir l'année qui vient. Et puis, tous les ans, c'est comme ça. C'est comme UTV. Vous voyez, c'est pareil. Nous non plus, nous n'avons pas de ressources liées à la publicité. La déontologie. Pertinence encyclopédique, je dirais que ça va de soi. Neutralité du point de vue. J'insiste un petit peu sur ce point-là, ça c'est pas facile à faire. Et donc, vous savez que sur des sujets comme la religion ou la politique ou les choses comme ça, la neutralité de point de vue, ça peut être perçu comme quelque chose d'un peu mythique. Vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez accès à ce PowerPoint, hein, je le mettrai sur le site, hein. C'est pas facile à mettre en œuvre. Alors, la façon de régler ce problème, eh bien, c'est de montrer tous les points de vue. C'est-à-dire, certains pensent ceci et cela pour telle et telle raison, d'autres pensent ceci ou cela pour telle et telle raison. Et c'est présenté d'une façon contradictoire dans la fiche Wikipédia. Contenu libre de droit. Alors là, c'est le problème du droit d'auteur, du copyright, j'y reviendrai dans le détail. Le savoir-vivre, c'est-à-dire les injures sont bannies, on verra comment, puisqu'il y a des gens qui mettent des injures ou des idioties sur Wikipédia, comment c'est réglé. Et souplesse des règles, c'est-à-dire que les règles qui ont été établies à un certain moment, si l'ensemble de la communauté pense qu'il faut les faire évoluer, eh bien elles évoluent. Fonctionnement coopératif et bénévole, décentralisé par nature, démocratique, on y reviendra, et anonyme. Anonyme, ça c'est un des points qui fait beaucoup questionnement autour de Wikipédia, c'est anonyme au sens de l'état civil des personnes. Par contre, c'est pas anonyme au sens de la connaissance de celui qui fait la modification, puisque on le connaît par un identifiant informatique et au pire par son adresse IP. J'y reviendrai. À la fin de l'exposé, je reprendrai toutes les critiques qui sont faites ou qui ont été faites sur Wikipédia pour qu'on ait une vision la plus complète possible sur cette chose-là. Wikipédia est une fondation au niveau statut juridique, à but non lucratif. Les techniques, ce sont uniquement des logiciels libres, donc open source, comme on dit dans le milieu. Développement spécifique par utilisateur. Tous les programmes sont faits bénévolement par des utilisateurs. Et Dieu sait s'il y a de l'informatique là derrière. Financier, pas de publicité, dont des contributeurs. Ça finance une équipe permanente et informatique. J'y reviendrai également dans le détail. Les filiations philosophiques, ce qu'on appelle, vous avez peut-être pas entendu, le copyleft, c'est le contraire du copyright. Copyright, ça veut dire le droit à la copie. Copyleft, ça veut dire je laisse libre la copie. C'est ça que ça veut dire. Travail collaboratif, logiciel libre, je l'ai déjà dit, et laisser faire pour l'organisation. C'est-à-dire, il n'y a pas un Big Brother, quelque part, qui dit, voilà, on va un pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Alors ça choque beaucoup, aussi, de monde qui... il n'y a pas de pilote dans l'avion, et pourtant, l'avion vole. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, un petit historique, mais au galop. Alors, tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas inventé par divination, évidemment, je l'ai trouvé à l'intérieur de Wikipédia et quelques sources externes. Wikimedia, j'y reviendrai, parce que Wikipédia, c'est la partie encyclopédique, mais il y a des cousinages avec d'autres wiki, on va dire, qui ont des objectifs bien particuliers, qui sont des bases de données d'images, qui sont des bases de données de livres, qui sont des bases de citations, etc. J'en ai fait la liste plus loin. Donc Sanger quitte Wikipédia en 2004. Il a fait donc un site académique, au sens encyclopédique du terme, qui a 15 000 articles, donc alors qu'il y en a 14 millions dans le Wikipédia. Mais ils sont très bien faits, hein. Et d'ailleurs, ils ont vocation, ils sont quand même pas fâchés au point d'être concurrents. Un article de Citizendium peut être intégré dans Wikipédia. Il n'y a pas de racisme entre les encyclopédies. Donc, Wales développe le concept d'autogestion de Wikipédia. Et la première présidente de la fondation, c'est une Française, extraordinaire, alors que tout est né aux États-Unis, elle s'appelait Florence Devoir. On ne pouvait pas trouver un nom meilleur pour quelqu'un qui s'occupe d'une chose pareille. Elle s'appelle Devoir. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors ça ne s'écrit pas O-I-R, j'ai mis l'orthographe, O-U-A-R-D. Et donc elle a été présidente de la fondation de 2003 à 2006. Le démarrage a été surtout, bien sûr, anglophone. Jusqu'en 2005, on va dire, c'était relativement confidentiel, c'était uniquement dans les milieux informatiques qu'on connaissait cet outil-là. Mais comme le référencement par Google prenait une dimension, puisque pour rentrer dans Wikipédia, souvent vous faites des recherches dans Google, et ça vous amène soit en première position, soit en deuxième position, une page Wikipédia, évidemment, c'est ça qui a fait une publicité extraordinaire, puisque vous savez que le classement dans Google est lié au nombre d'accès et au nombre de liens qui sont liés au site que vous consultez. Alors, en 2005, on a commencé à voir qu'il y avait des petits voyous qui foutaient un peu de la pagaille là-dedans. Et comment on va traiter ça? Donc, j'y reviendrai dans le détail. Il y a eu des procédures, des moyens qui sont susceptibles de freiner ces dérives. En 2006, campagne de promotion pour articles de qualité, c'est-à-dire que, je vous en montrerai un, la communauté vote sur la qualité des articles. Et il y a des articles qu'on appelle des articles de qualité, ça représente 1% du volume, mais qui sont beaucoup mieux que les meilleurs articles des meilleures encyclopédies, parce qu'ils sont très détaillés, je vous en montrerai un. Et donc, quand c'est un article de qualité, c'est marqué tout à fait en bas, article jugé comme étant un article de qualité. 2007, la croissance. 250 langues, il y a aussi quelque chose tout à fait spécifique à Wikipédia, c'est le développement de toutes les langues en parallèle. Et le maillage entre les, vous avez vu, si vous êtes allé sur Wikipédia, à gauche, vous avez toutes les langues et vous pouvez voir ce que vous avez écrit, si est-ce qu'il y a un chinois qui l'a traduit en chinois. Bon, ça, vous aurez du mal à vous rendre compte si c'est bien traduit, mais enfin, par exemple en anglais, vous pouvez avoir des articles correspondants en français et en anglais. 2008, développement de projet Wiki, j'y reviendrai. Un événement en 2009, l'église de Scientologie, bien évidemment, avait fait sa fiche, ou ses fiches, ou tout ce qui tournait autour de ça, et donc la communauté de Wikipédia a effacé, banni l'église de Scientologie. Donc il y a bien des mécanismes d'autocensure et de police, entre guillemets, interne à Wikipédia. Le succès est dans, en 2010, il y a eu une panne gigantesque dans le monde entier, il n'y avait plus de Wikipédia, mais c'est revenu. Et on peut dire qu'à partir de 2011, on semble avoir atteint le régime de croisière, c'est-à-dire que le volume, le débit des créations et des modifications reste constant maintenant. La phase de montée en régime est terminé, mais ça continue à monter, mais à vitesse constante. Et maintenant, donc, stratégie d'expansion vers l'Inde et le Brésil, puisque l'Inde et le Brésil, jusqu'à une période récente, c'était un peu des trous noirs de Wikipédia. Donc l'Inde, il y a un problème de langue, puisqu'il y a au moins 100 langues différentes. Et puis le Brésil, ben je sais pas, c'était le, il y avait pas beaucoup de Brésiliens qui s'étaient intéressés à Wikipédia. Donc la Wikipédia, la fondation fait des efforts pour qu'il y ait un développement dans les pays en développement. Hein. Alors voilà une liste de projets Wiki, donc Wikipédia, encyclopédie collaborative multilingue, ça tout le monde la connaît. Mais à côté de Wikipédia, il y a beaucoup d'autres wikis. Wikitionary, c'est un dictionnaire en ligne. On comprend. Wikiquote, c'est des dictionnaires de citations. C'est pour les littéraires. Donc quand vous cherchez des citations qui vont bien, vous avez des outils pour les trouver tout de suite dans cet outil-là. Wikibooks, c'est l'équivalent de Google Books, c'est-à-dire c'est des livres numérisés. Libre de droit, bien sûr. Wikisource, Wikibooks, c'est à vocation pédagogique, c'est Wikisource qui est l'équivalent de Google Books. Wikimedia Commons, c'est la base de données d'images et sons. Wikispecies, base de données des espèces vivantes. Il y en a plusieurs millions. Hein. Wikinews, c'est des news, vous avez compris. Wikiversité, alors... Ça donne des boutons à certains profs de fac. L'idée étant d'essayer de faire un support informatique qui serve à l'enseignement. Alors là, j'y reviendrai à la fin, ça fait l'objet de nombreuses polémiques. Wikimedia Incubator, c'est l'atelier, c'est les start-up, c'est-à-dire si on a de nouvelles idées pour faire... Et MetaWiki, c'est... Alors, c'est pas le Big Brother, puisqu'il n'y a pas de Big Brother, mais c'est une coordination par une petite équipe de l'ensemble de ces projets. La couverture thématique. Alors, je vous laisse lire les chiffres, je ne vais pas... Donc, vous voyez, culture et art, c'est quand même très significatif. C'est le premier sujet qui apparaît dans Wikipédia, hein, et ça n'inclut pas l'histoire, par exemple. Donc, culture et art, c'est tout à fait gigantesque, 30%. Biographie des personnes, 15%. Géographie et lieux, 14%. Société et sciences sociales, 12%. Histoire et événements, 11%, etc., etc. Et on arrive à philosophie et mathématiques, 1% chacune. C'est numérique, hein, c'est le nombre de fiches. Hein. Ça ne veut pas dire pour ça que c'est moins intéressant, mais voilà. Ah, évidemment, ça évolue au cours du temps. Ça, c'est des statistiques qui datent un petit peu, qui doivent dater de 2 ou 3 ans. Donc, pour Wikipédia, c'est antédiluvien. Alors... Quand je dis qu'il n'y a pas de publicité, c'est toujours vrai, mais il faut bien avoir, faut bien vivre. Et donc, on commence à voir apparaître des contrats de service. C'est-à-dire, vous avez peut-être vu, si vous êtes chez Orange, il y a un bouton Wikipédia dans la page d'accueil d'Orange. Et donc ça, ça n'a pas été gratuit. Orange a paye la fondation Wikipédia pour avoir accès en direct à Wikipédia. Le personnel aujourd'hui à Wikipédia, monde entier, 100 personnes. 100 personnes. Il y en a 100 000 chez Google. 100 personnes. Budget de fonctionnement, 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. C'est le 6e site le plus regardé sur la toile. Ça, c'est peu connu. Donc ça fonctionne vraiment comme l'UTB, vous voyez, avec aucun moyen. Hein. Alors voilà les budgets, puisque dans Wikipédia, j'ai accès aux slides du comptable, on va dire, de la fondation Wikipédia, qui présente le budget pour l'année 2013. Et donc voilà... les histogrammes bien connus, donc les recettes et les dépenses. Je vous laisserai en faire le... Donc c'est des gens, c'est bien géré puisque les recettes sont supérieures aux dépenses. C'est prévu comme ça dans le budget. Et ça a toujours été comme ça depuis le début de Wikipédia. Mais à des niveaux qui sont vraiment très faibles. Vous voyez par exemple hein, le vert foncé, là c'était 2008-2009, c'était 7 millions de dollars. Le tiers de ce qu'on dépense aujourd'hui. 7 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 7 millions de dollars. C'est vraiment rien du tout. Hein. Voilà le personnel par fonction. Bon, on retrouve les 100 personnes, là, disons, c'est 117 le chiffre exact. Et donc, ils vont recruter en 2013, ils vont recruter 20 personnes de plus. C'est un plan d'embauche massif. Hein. Voilà. Évolution du nombre d'articles de la Wikipédia en français. Donc, vous partez de zéro, bien sûr, comme toujours, en 2001, et on est à 1 200 000, 1 300 000 articles, pages. Hein. Et ça, sans publicité, sans chef, sans... c'est par, j'allais dire, génération spontanée. Le nombre de modifications par jour, donc ce graphique-là permet de voir qu'on arrive dans une phase de stabilisation, pas de stabilisation du nombre, mais stabilisation de la vitesse d'accroissement de Wikipédia. Donc ça, c'est le nombre de modifications par jour. Donc par jour, il y a environ, à l'œil, 30 000 à 40 000 modifications sur le Wikipédia français. Création et modification. Des statistiques par langue et pays. Donc l'anglais, évidemment, est majoritaire. Ben, l'anglais a, pour le moment, a 4 millions de pages. Donc en numéro 2, ça doit être les Allemands, je crois. Et en numéro 3, c'est les Français. Bon, enfin, ça se tient tout. Espagnol, oui, vous voyez. Non, c'est l'espagnol, le numéro 2. Non, français, là, le français, il est là. 1,2 million, oui, oui. Non, mais l'Allemagne... ah non. Oui, mais là, il y a un bug, là. C'est faux, ça. C'est faux. Oui, c'est faux. Non, l'Allemagne et la France, c'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Alors, par contre, ce qui est plus intéressant, ça, c'est le petit trait rouge. C'est le nombre d'éditions par million de locuteurs. Pas par million d'habitants, million de locuteurs, puisque là, on parle de langue, on parle pas de pays. Hein. L'estimation, là, les Français, il y a 200 millions de locuteurs dans le monde, hein, en tout. Hein. Et donc là, eh bien, on voit que on est tout à fait dans la moyenne, même plutôt dans la moyenne supérieure par rapport aux Anglais. C'est quelle est la proportion de la population qui est active dans les modifications de Wikipédia. Et par rapport à l'ensemble des locuteurs, on est tout à fait dans la moyenne supérieure. Alors, la même chose présentée autrement, bon... Là, vous voyez, le total, c'est la courbe qui est ici, les Anglais sont là, et les Français, c'est le jaune, ici. Vous voyez, les Allemands, c'est bien ce qu'ils me disaient, c'est la courbe orange, donc qui est légèrement au-dessus du jaune. Alors, voilà une image très intéressante que je vais vous commenter plus dans le détail. Elle n'existe que sur le Wikipédia français. Je ne l'ai pas trouvé d'équivalent sur le Wikipédia anglais, par exemple. C'est une représentation graphique, synthétique, de tout ce qui se passe sur Wikipédia. Alors, on voit, c'est comme des buildings à la Défense. Hein. Donc, la hauteur des buildings, c'est le nombre d'articles. L'étiquette qui est ici en haut, c'est le champ, la discipline, si vous voulez. Culture et art, ce que je vous ai dit, les 30%, bon, vous le voyez là. Non, la hauteur, c'est pas le nombre d'articles. Le nombre d'articles, c'est la surface. La hauteur, c'est le nombre de modifications. Je vais revenir plus dans le détail, je vais analyser plus cette chose-là. Ce que vous voyez ici, c'est des petits bonshommes qui sont présentés par des petits traits, et donc qui représentent qui 1 million de pages, qui 1 million de modifications. Et là, il faut vraiment zoomer à mort sur l'image pour voir ça. Mais ça donne une image synthétique, visuelle, de ce que représente Wikipédia. Puis là, il y a des petits machins à côté, vous voyez, là. Ça, c'est l'Encyclopédia Britannica. Le volume de l'Encyclopédia Britannica par rapport à Wikipédia. Donc, impressionnant. OK ? Alors voilà, j'ai fait des zooms. Hein. Là, on le voit un petit peu mieux ici. Voilà les petits bonshommes. Et voilà la légende. Vous regarderez quand vous... Et voilà un détail des buildings. Le trafic global, 20 millions de pages par heure. 20 millions de pages par heure en toute langue. 1 million de pages par heure en français. Édition, 12 millions par mois, toute langue. Et Wikipédia représente 14% du trafic global sur Internet. Et le français, le Wikipédia français, c'est 5% du total de Wikipédia. Infrastructure matérielle, comment ça marche tout ça? Alors je vais vous faire grâce des détails techniques. Si ça vous intéresse, vous allez dans Wikipédia, tout est décrit dans le menu détails. Donc, puisque ça a commencé en Californie, bien sûr, les serveurs étaient en Californie, à San Diego. Quand ça s'est développé, il y a un deuxième centre qui est à Tampa, en Floride, et un à Amsterdam, et un autre en Corée. Mais en Corée, c'est les serveurs de Yahoo, Yahoo Corée, qui hébergent le Wikipédia. Il y a quelques spécialistes là dans la salle. Hein. Donc, le principe de fonctionnement, c'est que vous avez l'impression de voir des pages qui sont comme si elles étaient enregistrées. Donc, on tire comme si on tirait un papier d'une base de données. C'est pas comme ça que ça marche. Toutes les informations qui sont dans les pages sont stockées dans des champs d'une base de données. Et en fait, il y a des outils qui composent dynamiquement la page, mais vous ne le voyez pas, ça se passe à la vitesse de l'éclair, et qui vous permet de la regarder. Donc, et il y a des caches pour gérer les problèmes de temps d'accès. C'est les noms des logiciels. Apache, c'est le nom du logiciel serveur. Squid, c'est les logiciels de cache. Et MySQL, qui rappellera de bons souvenirs à certains dans la salle, MySQL, c'est le système d'interrogation et d'extraction des bases de données. Et donc, le site de l'UTB utilise MySQL pour extraire les informations que vous voyez sur le site depuis une base de données. On est à la pointe de la technique, bien sûr, comme toujours. Voilà. Parce qu'à l'UTB, il faut aussi s'occuper de ça. MediaWiki, alors HTML, pour les non-spécialistes, HTML, c'est le langage de programmation du contenu des pages. Ça veut dire hypertexte, markup language. C'est ça? Je ne me trompe pas. Hein. Et un HTML dit simplifié, parce qu'en fait, c'est très sophistiqué comme langage de programmation. Et c'est une des difficultés pour les utilisateurs de base, c'est qu'il faut quand même rentrer un peu dans ces jargons informatiques. Ça, c'est un portable. C'est bien, sûrement. Et la norme pour les... Oui, ça doit être mon portable, ça. Il s'est calmé. C'est la norme TEX qui permet d'éditer des formules mathématiques. Ah, il y a des robots. Ah, des robots, faut pas voir des robots avec des petites mains, des petits yeux, comme dans les films de science-fiction. Ce sont des programmes informatiques qui permettent, avec un personnel qui est réduit à l'os, hein, on va dire. Mais par contre, il y a la communauté des administrateurs dont je vais parler, qui surveille tout ça et qui met, soit automatiquement, soit semi-automatiquement, en œuvre ces robots qui font un certain nombre de choses. Il y en a des centaines. Par exemple, surveillance du trafic. On a des robots qui permettent de voir si sur une page, il y a une modification par minute. Et quand il y a ça, c'est louche. Donc, parmi les millions de pages qui existent, ça met tout de suite le zoom là-dessus et ça permet d'alerter un administrateur en disant « Regarde, il se passe quelque chose de pas normal ici, regarde ce qui se passe. » Il regarde, et si vraiment c'est du vandalisme, il peut faire un certain nombre de choses, mais au pire, couper le robinet. Donc, couper l'accès du vandal à la page correspondante. Homogénéisation des formats, on va dire, d'une façon générale, c'est-à-dire tous les titres de paragraphes ont le même look, etc. Et s'il y a des farfelus qui commencent à essayer de faire des fantaisies au niveau de la présentation, c'est impossible de faire une surveillance humaine, mais on a des robots qui permettent de le détecter. Et des révocations de vandalisme. Mais également sur Wikipédia, vous avez des listes hyper exhaustives de tout ce qui existe. Et ces robots sont des programmes qui ont été développés par des utilisateurs, uniquement. Ce n'est pas développé par des professionnels rémunérés. Alors, pour que les gens communiquent entre eux, bien sûr, ils peuvent communiquer à travers les pages, on y reviendra, mais ils utilisent l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le Facebook ou les réseaux sociaux, c'est l'IRC. C'est-à-dire, c'est le messenger, si vous voulez. Hein. Donc, c'est la messagerie instantanée. On tape et puis l'interlocuteur répond tout de suite, question-réponse. Ça existe déjà depuis 20 ans sur Internet. Parce que tout ce qu'on voit comme produit commercial sur Internet, par exemple Facebook ou Messenger ou Skype ou ce que vous voulez, c'est pas une invention, ça utilise des briques qui avaient déjà été développées, d'une façon académique. Alors, les outils de Wikipédia, c'est des outils d'édition classiques, savoir faire des pages, des tableaux, extraction de base de données, discussion historique, vote de la communauté. Je vais y revenir dans le détail. Et je pense qu'à la fin, je vais faire quelques exercices sur des pages réelles pour que vous vous rendiez mieux compte. La communauté Wikipédia, au premier degré, vous êtes sur une page, vous essayez de faire un petit onglet, modifier, vous rentrez là-dedans, alors on commence par vous dire, vous n'êtes pas enregistré. Donc c'est mieux si vous étiez enregistré, mais vous pouvez ne pas vous enregistrer. Par contre, on va vous prendre l'adresse informatique, l'adresse IP, ce qu'on appelle Internet Protocol, de votre machine. Et donc, on sait quand même qui est-ce qui a fait la... Allez, arrête-toi. C'est bien mon téléphone. Hein. Allez, tu te tais. Alors, un graphique qui représente un peu la communauté Wikipédia, les internautes, les anonymes, les Wikipédiens et les vandales qui sont à l'extérieur, qui essayent de rentrer pour semer la panique à l'intérieur. Alors voilà les rôles qui existent au sein de la communauté Wikipédia. Les utilisateurs anonymes, je les ai évoqués. Enregistrés, ben, vous prenez un nom et un mot de passe. Donc ça, c'est un degré supérieur dans la connaissance, c'est-à-dire que même si vous vous connectez d'une machine différente, vous êtes identifié comme une personne unique. Administrateur, donc c'est tous les gens qui s'occupent de faire la police et le ménage là-dedans. Steward, arbitre, patrouilleur, masqueur, j'y reviendrai, mais surtout ce qui est extraordinaire dans ce système, il n'y a pas de position hiérarchique entre tous les gens qui ont un rôle de police. Donc il n'y a pas de possibilité d'abus de pouvoir, c'est-à-dire tout le monde se tient par la barbichette. Les administrateurs ont beaucoup, beaucoup de pouvoir, mais pas tous. Et ils peuvent être flingués par d'autres, les stewards, les arbitres, les patrouilleurs et les masqueurs. Parce que même un administrateur peut faire du vandalisme. Si vous aviez une structure complètement pyramidale, le risque d'abus de pouvoir est fort. Donc les gens qui ont pondu ce système-là étaient très astucieux. C'est un système démocratique, mais où tout le monde se surveille mutuellement. On pourrait faire des transpositions, je mets sur le monde réel, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Alors, plus dans le détail, utilisateur enregistré, donc je l'ai dit. Alors, dans l'utilisateur enregistré, il y a un service de tutorat. C'est-à-dire, on l'a expérimenté nous-mêmes, Françoise en est témoin, quand on a fait notre fiche Claude Enoch viré, donc on a un peu transpiré pendant une ou deux heures, et puis on était vachement content parce que notre fiche... on la trouvait belle, on avait bien réussi du premier coup. Bon, alors, dans les 10 minutes qui ont suivi, pof, on reçoit un message dans la page où il y a marqué des messages. Très bon début, mais je peux vous aider si vous voulez faire mieux. On ne peut pas demander mieux, hein. Et donc voilà, vous me demandez, hein, voilà. Et après, on a observé les 2 jours qui ont suivi, il y a eu, je vous la montrerai la fiche, nous on a fait 4 ou 5 accès pour créer la fiche, il y a eu à peu près 50 accès, dont la moitié étaient des accès automatiques. C'est-à-dire, ça a amélioré la présentation de la biographie, des tableaux, des machins, ça s'est fait par des robots, sans qu'on fasse rien. Et notre fiche, elle est encore... vachement mieux qu'elle était celle qu'on avait faite, qu'on trouvait géniale. Hein? Donc, c'est assez impressionnant. Alors, quand on est enregistré, donc on fait partie, on est chevalier dans l'ordre de Wikipédia, et donc on peut participer au vote. Alors que l'enregistreur lambda qui ne se fait pas connaître, il n'a pas ce droit-là. les administrateurs, donc, ils modifient, restaurent et suppriment des pages. Donc, c'est vraiment eux les nettoyeurs du système. Ils bloquent et changent le sens de statut des pages. Accès aux journaux de modification et à la base de données. Élus par la communauté. Ils sont élus par la communauté. C'est-à-dire que il n'y a pas un gars qui dit, moi, attendez, là vous voyez, moi je suis le cador de l'informatique, c'est la première fois que je viens sur Wikipédia, moi je me propose comme étant administrateur. Il dit, mais qui tu es, toi, t'as jamais vu. Donc les administrateurs, c'est des gars qui ont fait leur classe, qui ont fait des pages, qui sont montés tout doucement dans la hiérarchie, et qui ont été reconnus par ceux qui sont tout le temps branchés sur ce système, et ils ont été acceptés par ça. Parce que pour être élu, il faut qu'ils se présentent. C'est exactement comme la démocratie. Alors, bureaucrate, gestion des statuts utilisateurs, steward, gestion, vérificateur d'un récipient. Je passe vite, hein, parce que le temps passe à la vitesse grand V. Comité d'arbitrage, donc quelquefois il y a ce qu'on appelle des batailles éditoriales. Et donc on n'arrive pas à se mettre. Il y a des dialogues entre l'administrateur et le ou les auteurs, et ça se dispute et on n'arrive pas à obtenir un consensus. Et à ce moment-là, on bloque transitoirement la page et on arrose un deuxième niveau de dans la communauté en disant, ben voilà ce que le gars veut faire, moi à mon avis il faut le bloquer, qu'est-ce que vous en pensez? Et là il y a un vote. Voilà les statistiques sur les rôles. Je vais à éditeur actif. Je vous avais vu le nombre de personnes qui consultent. Bon, en France, enfin, pas en France, en français, la langue française, il n'y a que 6000 personnes qui sont des éditeurs actifs. Alors, qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on appelle éditeur actif? C'est quelqu'un qui fait une centaine de modifications par mois. C'est pas un gars qui fait une modification un jour. Si vous le faites vous-même, bon, vous ne serez jamais dans les éditeurs actifs. Donc, c'est déjà des gens qui sont impliqués. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, on peut le regretter, mais malgré cette faible proportion, on considère que ça marche. Ça peut paraître étonnant, c'est comme ça. Et en France, il y a 200 administrateurs. 200, c'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup. 200 seulement, pour 1 200 000 articles. En français. Oui, sur les 200 millions de locuteurs français. Hein? Il y a d'ailleurs beaucoup plus de Canadiens que de Français. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, là, je vois que le temps passe. Si on veut faire des manips, je vais aller plus vite. Donc, les règles de Wikipédia, ces choses-là, je les ai copiées, bien sûr, dans Wikipédia. La citation. Donc, tout ce que... vous avez intérêt à faire des citations. Et la façon de le faire, c'est pas n'importe comment. Les règles sont travaux inédits. Alors ça, c'est un point qui est peu connu de Wikipédia. Il est interdit de publier des travaux inédits. Le but, c'est pas la revue du CNRS. Donc, on ne publie que des choses qui sont déjà publiées. C'est-à-dire qu'on fait l'objet d'une thèse ou d'un ouvrage. S'il y a une recherche qui est en cours et on publie un résultat d'une recherche dont la publication n'a pas eu lieu, c'est strictement interdit. OK ? Pour qu'il n'y ait pas de mélange des genres. Pour des raisons d'antériorité ou des choses comme ça. Vous voyez, on pourrait se servir de ça parce que, du point de vue juridique, certains ont essayé de se servir de Wikipédia comme une preuve devant une cour de justice. Et donc, pour l'essentiel aux États-Unis, quand on fait du juridisme, tout se passe toujours aux États-Unis. Et donc, la jurisprudence semblerait être que Wikipédia n'est pas accepté comme un élément de preuve devant un tribunal. Parce que il y a trop de modifications. Vérifiabilité, eh bien, c'est les sources, hein. Confidentialité, eh bien, il faut que des choses confidentielles ne soient pas publiées, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Exception au droit d'auteur, là, c'est des arcanes juridiques. Alors, tout ce que vous voyez là, ce sont des liens hypertextes. Donc, quand je vous poserai le PowerPoint sur le site, si vous cliquez dessus, ça vous branchera directement sur la page correspondante de Wikipédia. Utilisation des images, des règles, des catégories. Catégories, c'est quoi ? Je reviendrai sur les exemples. C'est, on va dire, la discipline, le groupe. Au début, si vous voulez, ce qui est troublant dans Wikipédia, c'est qu'il n'y a pas de plan d'ensemble qui a été préalablement établi. Et les gens ont fait des pages comme ça, puis au bout d'un moment, il faut quand même un peu que ça parte dans tous les sens, il faut quand même un peu réorganiser ça. Donc, ce besoin de quand même de faire des casiers, la philosophie, l'histoire, la chimie, etc., est vite apparu après de faire des subdivisions, et on revient dans la démarche de Diderot. Puisque qu'est-ce qu'il y avait dans le préambule de l'encyclopédie, c'était de faire un arbre des connaissances. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on a commencé par faire les articles, et après, on a un peu reconstitué un arbre des connaissances. Et une des difficultés qu'on voit actuellement quand on y va souvent, j'en connais un qui y va souvent, vous voyez qui je veux dire, c'est qu'il y a des choses très bien documentées, et il y a des trous béants, qui sont très peu développés au niveau du contenu et qui mériteraient une chose. Alors, on verra d'ailleurs que les administrateurs, dans leur bonne déontologie, mettent, c'est pas mal votre truc, il faudrait que tu rallonges un peu la sauce, parce que là, c'est un peu short. Hein. Ou alors, c'est tellement court en disant, bon, c'est creux ton truc, hein, c'est ce qu'on appelle en anglais un stub. C'est-à-dire, c'est un article bidon, hein, qui enfonce des portes ouvertes, qui n'apporte rien, qui n'apporte aucun élément de... Et en plus, n'hésitez pas. Ça veut dire quoi, n'hésitez pas? C'est, je dirais, à la limite, le socle complet de Wikipédia. Pourquoi? Eh bien, le réflexe classique, je lis une page sur un sujet que je connais un petit peu, puis là, là, c'est une connerie majestueuse. Comment ça se fait qu'on a pu mettre ça? C'est un scandale et tout. N'hésitez pas, corrigez-la. Instantanément, c'est votre devoir. Et là, on n'est pas culturellement habitué à cette chose-là. Pour nous, une encyclopédie, c'est quelque chose qui a été fait dans l'hyperespace et par des gens intelligents, même si on ne sait pas comment ça marche, et c'est pas possible qu'il y ait des erreurs. S'il y a une erreur, donc notre réaction très française, ça consiste à dire, il faut que je trouve le gars qui a mis cette connerie et lui dire qu'il la rectifie. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est à vous, à la corriger, sous réserve que vous en ayez l'assurance qu'elle est bien fausse, et en général, quand vous faites une correction de ce type-là, le cas classique, c'est les dates de naissance, les dates de mort, le lieu de naissance, et les choses comme ça dans les biographies, enfin, voilà un exemple typique, vous fait des travaux qui vous permettent d'être sûr, et là, crac, vous dites, vous changez la date, vous mettez une petite référence, et vous faites référence au document qui vous permet de dire qu'il y avait bien une erreur. Donc, le slogan qu'il faudrait mettre au-dessus de Wikipédia, c'est « n'hésitez pas ». Et là, on n'est pas, parce que quand j'en parle avec un tel ou une telle, elle dit « ah ben oui, moi j'ai lu une fiche, et là, il y avait une connerie majestueuse ». Donc Wikipédia, ça vaut pas un clou. Alors, j'ai dit, non, c'est pas le réflexe qu'il faut avoir, c'est à toi de le corriger. Bon, conflit d'édition. Même liste que tout à l'heure, c'est-à-dire, où est-ce qu'il y a des guerres éditoriales? Vous n'aurez pas de surprise, vous n'avez qu'à regarder les chiffres. Hein. Bon, sur les cultures et les arts, bon, ça se bat pas beaucoup. Par contre, sur les biographies et les personnes, alors là, ça... L'exemple typique, c'est toutes les personnes vivantes qui ont des fiches, et en particulier les hommes politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on est à la merci de toutes les manipulations et de toutes les, ce qu'on appelle dans le jargon, les guerres éditoriales. Et alors là, quand ça chauffe trop, la méthode radicale, on coupe le robinet, ou quand ça reste raisonnable, eh bien, il y a un débat au sein de la communauté en disant on prend tel point, ou alors on dit, en général ce que l'on dit, on présente les deux points de vue, neutralité du point de vue. Dans les sujets religieux, c'est le cas. Alors, je peux vous dire que les pages sur l'islam, ça chauffe en ce moment. Religion et système de croyance, 28%. Donc un tiers des guerres éditoriales sont sur... Bon, c'est pas un scoop. Hein. Donc pour le moment, ça fait pas de mort, au moins sur Wikipédia. Mais voilà, philosophie et pensée, de la même façon. Il y a beaucoup de guerres éditoriales sur philosophie et pensée. Alors, notoriété, orthographe, accessibilité, contenu évasif, usage de la couleur. Je zappe, vous cliquez sur les liens, vous verrez de quoi il s'agit. C'est des règles de bonne pratique pour la rédaction des pages. Et là, je vais m'arrêter un petit peu et on va passer aux travaux pratiques. Donc, sur une page Wikipédia, je vais en prendre une. Qu'est-ce que vous voyez sur une page? Le titre, la page, vous la lisez, vous voyez des onglets au-dessus. Il y a discussion. Et donc, tous les gens qui ont des avis à donner sur le contenu de cette page écrivent ici. Et il y a même des réponses. Alors là, l'académisme de la rédaction est moins bon. C'est pas encore le SMS, mais presque. Ah, ça, c'est ben vrai. Hein? Là, vous le voyez, vous arrivez à lire, là? Hein? Donc, il y a quelques noms d'oiseaux qui volent de temps en temps, là. Mais c'est assez rigolo à regarder. Alors, je reviens. Donc, la page... j'y reviendrai après, là. Donc, accueil. Portail thématique. Portail thématique, c'est les grandes disciplines. Index alphabétique. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Article oiseau. Contactez Wikipédia. Contribuer. Premier pas, aide communauté, modification récente, faire un don. Donc, c'est le dialogue avec les utilisateurs. Imprimer, exporter, ça vous permet de faire une page, entre autres PDF, si vous voulez, de la page. Boîte à outils, ben, y a des outils. Hein. Page liée, suivi des pages liées, etc. Je passe. Et après, vous avez toutes les langues. Et là, vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Et donc, les langues exotiques, comme le chinois, c'est écrit effectivement en chinois, il n'y a pas de doute. Hein. Là, on peut regarder ça, voilà la façon de le faire en chinois, si ça veut bien y aller. La Chine, c'est loin. Voilà. OK ? Vous comprenez tout. Hein ? Mais pour ceux qui ont une pratique modeste du chinois... mais une meilleure pratique, par exemple, de l'anglais, hein, vous cliquez sur anglais et ça vient en anglais. Hein. Voilà. Alors, pour les sujets qui nous concernent le plus, les sujets d'histoire, par exemple, moi je vais souvent sur le Wikipédia anglais, ça permet de comparer les différentes versions, si vous voulez. C'est toujours intéressant de comparer. Alors, je vais plus loin, il faut aller tout à fait en bas. Et vous voyez, le mot catégorie que j'ai évoqué tout à l'heure, il est complètement en bas. En bas, il y a deux choses, catégorie, diverses choses comme ça qui se déplient. Voilà, Wikipédia, principe, et Wikipédia... Ah ben, je vais le mettre en français, ce serait plus facile. Bon... Voilà, ça, vous aimez mieux comme ça? Eh bien, vous voyez, en français, il n'y a pas. Non, mais ça veut dire que les gens qui ont fait l'affiche en français ont pas remis ces petits paragraphes. Bon, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la date de la dernière modification de la page. Et je vous incite vraiment, quand vous regardez quelque chose, d'aller voir quelle est la dernière date. Et là, vous allez être surpris. En général, c'est une date très récente. Même pour des sujets qui vous paraissent complètement exotiques. Vous allez voir le Concile de Trente. Vous allez voir que la veille, il y a quelqu'un qui a fait une modification sur les pages du Concile de Trente. Il n'y a pas de petit plaisir, hein? Voilà. Bah oui, si on est passionné par le Concile de Trente, hein? Voilà. Voilà. On y revient là. Alors, je reviens sur le diaporama. On fera des exercices, c'est plus simple, hein? Donc j'ai perdu 38. Contenu d'une page, ben c'est ce que je disais. Alors dans la page principale, il y a le titre, l'introduction résumée, le sommaire, les chapitres, les illustrations, les tableaux, les notes de bas de page, les liens externes, les liens internes, les liens externes. Le plus simple, c'est que je vous le montre sur une fiche réelle. On fera l'exercice. Alors, un commentaire personnel, les notes de bas de page, c'est une source de perles extraordinaire. Souvent, il y a des gens qui ont fait vraiment un travail de super qualité et on a accès à des sites qui sont invisibles dans Google parce qu'ils sont à la page 256. Personne ne va jamais les voir. Par contre, le gars qui les a mis en référence dans la page Wikipédia, vous cliquez dessus, c'est génial. Moi, j'ai un souvenir d'une expérience comme ça, c'est la Chapelle Sixtine. La Chapelle Sixtine, on a eu une conférence par M. Capelazzi qui nous montrait, et il n'a pas voulu nous donner les belles images de la Chapelle Sixtine. Alors là, j'avais un peu les boules, je lui ai dit, de toute façon, Pépère, tu ne vas pas nous avoir comme ça, moi je vais refaire les images de la Chapelle Sixtine. Eh bien, toutes les images que l'on voit quand vous faites images sur Google, c'est des timbres-poste. C'est fait exprès. Pour que décourager le copyright. Et donc, pour avoir des images en haute définition, eh ben c'est pas facile à trouver ou c'est impossible à trouver. À force de chercher, j'ai trouvé des images en haute définition de tout le plafond et du jugement dernier de la Chapelle Sixtine sur un site hongrois. Mais je l'ai trouvé dans une note de bas de page, sur la page en anglais, sur la Chapelle Sixtine. Le numéro de la note, numéro 256, à force de balayer. Bon, ça demande un peu de patience. En trouvant ce site-là, j'ai recopié, je n'ai pas demandé l'avis aux Hongrois, je ne sais pas parler hongrois, et donc sur le site de l'UTB, vous avez la Chapelle Sixtine en haute définition. Sinon, j'aurais jamais pu le trouver. Voilà. Pensez au portail et aux catégories, j'en ai parlé. Liens internes, ben c'est des liens entre différentes pages. Liens sur mots dans le texte, je vous montrerai des exemples. Alors, le fonctionnement de la communauté, j'en ai déjà largement parlé. Les prises de décision, la protection, le blocage en écriture, la révocation, articles bien sourcés, citez vos sources, critères d'admissibilité des articles. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, surveillez bien, ici, voilà, ça, le dernier onglet en haut à droite, affichez l'historique. Alors, les règles de Wikipédia, vous allez dire, bon, ben ça change pas tous les matins. Eh bien, regardez le nombre de modifications. 16 septembre, 7 septembre, 3 septembre, 31 août, 15 juillet, 16 juin, 14 juin, 6 juin, 9 mai, 27 mai, 30 mars. Vous voyez que ça vit en permanence. Et là, c'est des choses qui sont considérées comme relativement stables, mais vous regardez des articles qui sont d'actualité, hein, qu'est-ce que je vais dire, par exemple, les événements en Syrie, hein, puisqu'on peut faire des fiches, il y a des fiches qui suivent l'actualité à la minute près. À la minute près. Parce qu'il y a des gens qui modifient les pages à la minute près. Et il y a un grand bandeau en disant c'est un événement qui est en train de se passer, surveillez en permanence la page parce que dans les deux minutes qui vont venir, ça va changer. Ok ? Et donc, vous le voyez dans cette page-là. Dans cette chose-là, là, je vois pas, je le ferai sur le... Non, là, on peut pas le faire. Parce que ça, c'est des règles, machin. Bon. Alors, 44. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Conflit d'édition, je l'ai déjà dit. Alors, qui sont les Wikipédiens ? Parce que tous ces gars dont on parle depuis le début, qui font des fiches du matin jusqu'au soir et du soir au matin, où sont-ils ? Qu'est-ce que c'est que ces extraterrestres, là, qui sont dans les limbes ? Eh bien, en fait, ce sont des personnes qui ont une maîtrise quand même très forte de l'outil informatique. Et en fait, ce sont tous des jeunes. Il n'y a pas de vieillards là-dedans, comme nous. Tout simplement parce que ils sont nés dans l'informatique et il faut quand même jongler avec tous ces outils. Les outils de logiciel libre, c'est pas des outils d'une facilité d'accès extrême. Hein. Mais en plus de cette connaissance informatique, ben, les uns ou les autres ont un hobby ou plusieurs hobbies. Et moi, je suis fanat d'Elvis Presley, donc je suis spécialiste d'Elvis Presley. Et là, je vais faire les fiches d'Elvis Presley jusqu'au menu détail. Et je suis spécialiste de la reproduction des crapauds. Je fais des fiches sur la reproduction des crapauds, etc., etc. Et c'est comme ça que ça marche. Et il y en a suffisamment pour couvrir tous les champs de la connaissance. Ah, c'est des gens qui ont l'habitude, pas seulement de regarder Internet, mais de lire dans les bouquins. Puisque quand vous regardez dans les sources qui sont en bas de la page, 90% ce sont des ouvrages écrits, papier. Donc pour avoir fait la référence, faut bien qu'ils aient lu le bouquin. Dans les domaines scientifiques, par exemple, ce sont des scientifiques qui font les articles. Dans les études sur la pertinence de Wikipédia, les articles scientifiques de Wikipédia sont considérés comme les meilleurs, même supérieurs à ceux de l'Encyclopédia Britannica. Il y a eu des études de la revue Nature aux États-Unis, contradictoires, qui ont montré ça. Alors, je l'ai perdu. Bon, Wikipédia, c'est vachement bien. Alors, on va passer aux critiques, quand même, parce que là, on n'a fait que de la des explications laudatives, donc maintenant, on va commencer à taper dans la butte. Première critique, il n'y a pas de schéma général, j'ai déjà dit, et donc ça, c'est vrai que ça manque, mais du fait même du concept et de la philosophie, il n'y en aura jamais, par définition. Mais le pari, c'est que l'évolution naturelle du système fera que, tout doucement, et il est largement mis en place, tout doucement, ça va s'arranger. Mais, de mon expérience personnelle, j'ai découvert qu'il y avait des trous dans les mailles du filet, quelquefois des trous un peu béants. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe. Voilà. Son principe favorise les guerres éditoriales, on a largement parlé, et on peut regretter le faible pourcentage d'actifs. Contenu anonymat des auteurs, donc je dis c'est un anonymat fictif, c'est un anonymat, on n'a pas l'identité civile de la personne, mais on a l'identité informatique de la personne. Et si vraiment il est perturbateur à l'extrême, on a tous les moyens d'empêcher, de nuire et au-delà. Les trous, la fiabilité des contenus, alors là, je vais y revenir. Donc, la revue Nature, comme je disais, a fait une étude en 2005 sur la pertinence comparée de l'Encyclopédia Britannica en prenant des tranches de pages ciblées, équivalentes des deux côtés. Et, alors, je vous rassure tout de suite, il y a plus de bêtises dans Wikipédia que dans Britannica. Mais j'ai plus les chiffres, je l'ai là dans mon papier, c'est, mettons, 0,3% dans Britannica et 0,4% dans Wikipédia. Donc c'est loin d'être catastrophique, il n'y a pas de différence significative. Il y en aurait 10 fois plus, on dirait, ah, mais bien sûr, non, c'est pas significatif. Et surtout, ce qui a été considéré comme un scandale, il y a des erreurs dans les encyclopédies dites sérieuses. Et il y en a, c'est pas négligeable. Parce qu'elles font comme les autres, elles recopient les conneries qu'elles ont vues sur d'autres bouquins. Hein, voilà. Alors, la peer review, je vous ai expliqué ce que c'était, c'est-à-dire c'est la revue par les pairs, c'est-à-dire ce qu'on pratique dans les revues scientifiques. Vous proposez un article, il y a un comité d'experts qui le regarde et qui disent oui, cet article est acceptable, il est pertinent du point de vue scientifique, on peut l'accepter ou on doit le refuser. Et donc c'est la méthode de citizendom, mais ça prend un temps bien heureux. Et on peut considérer qu'après cette peer review, c'est bien fait. Et donc ça a été fait, alors que ça n'existe pas dans Wikipédia, par nature. Donc il y a eu un exercice de faire, d'en faire, sur des articles scientifiques de Wikipédia. Et en fait, c'est aussi bien que les revues scientifiques sérieuses. Alors là, ça a fait aussi un certain émoi dans la communauté, de ceux qui n'aiment pas Wikipédia, bien sûr. Et surtout, il y a un phénomène que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on constate, et là, nous, on l'a constaté expérimentalement, il y a une vitesse de réparation des bêtises, soit par des robots, soit par des humains, qui est absolument extraordinaire. Donc la probabilité pour qu'un lecteur, qui ne sait même pas que la fiche existait, tombe dessus et voit la bêtise, elle est quand même assez faible. Par contre, on trouvera toujours un cas où un mois après avoir mis une connerie volontairement, et il y a toujours des petits malins qui s'amusent à raconter des salades pour voir ce qui va se passer, donc on met un chiffre complètement faux ou n'importe quoi, pas une injure parce que c'est tout de suite repéré, mais on met un chiffre faux ou une date fausse, un mois après, vous voyez, elle y est toujours. Donc ça marche pas, c'est idiot. Mais les études statistiques ont montré que ça restait marginal. Alors, la vraie critique de Wikipédia, moi, c'est celle que je fais, c'est qu'il n'y a pas d'éditeur Visivig. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Visivig, ça veut dire, en français, what you see is what you get. Ça veut dire, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous aurez sur la page Internet, c'est ce que vous avez dans un traitement de texte. Dans un traitement de texte, quand vous tapez, l'aspect de ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui va être sur le papier quand vous allez l'imprimer. Et rigidité de la mise en page. Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'y avait pas ça. D'abord parce qu'il n'y a personne qui a voulu se fatiguer à faire cet éditeur. Je crois que c'est une des premières raisons. Puis je pense que c'est un petit peu volontaire parce que s'il y avait un éditeur Visivig facile. Alors donc, la tentation de l'ensemble de la planète d'aller foutre la pagaille là-dedans, elle serait encore beaucoup plus forte. Donc ça fait quand même un petit frein au vandalisme parce que l'accès à la modification n'est pas aussi simple qu'on pourrait le souhaiter. Mais j'ai vu dans des débats sur Wikipédia, bien sûr, que l'idée d'aller vers un éditeur Visivig était dans l'air. Et là, maintenant, j'attaque le gros morceau, critique du monde enseignant. Alors, monde enseignant, je m'arrête au lycée, hein, parce qu'après, j'ai mis universitaire. Donc, les critiques sont pas de même nature au niveau universitaire et au niveau enseignant. Alors, au niveau enseignant, vous avez deux opinions complètement, radicalement opposées. Une qui dit, ça peut être un outil complémentaire aux méthodes d'enseignement, et d'autres qui disent, nous on n'en veut pas parce que ça va être du copier-coller systématique et les gamins vont plus rien faire. Et donc vont pomper, on sait bien que ça existe, vont pomper des pages Wikipédia pour les mettre dans leur devoir. Et ça se fait beaucoup ça. Alors, je pose les choses là-dessus, je rentre pas plus dans le détail donc allez sur Wikipédia et vous verrez les débats qu'il y a autour de ça. Il y a une page qui s'appelle Critique de Wikipédia, c'est aussi ça, en français. Hein. Donc vous voyez, ça fait quand même une vingtaine de pages. Et lisez ça, vous aurez le détail de ce qu'on peut en penser. Alors le monde universitaire a un autre type de critique, les mêmes bien sûr, mais je reviens à l'origine des encyclopédies. Les encyclopédies, ça ne peut être fait que par des gens diplômés comme des sauveteurs, donc et les experts reconnus dans leur domaine, et qui sont rémunérés pour leurs travaux. C'est le cas, par exemple, de l'Universalis. Les gens qui signent des articles, les signent. Donc on sait le nom et le prénom de la personne. Et ils touchent une pige, je ne sais pas combien, mais enfin, ils touchent une rémunération pour avoir écrit cet article. Et alors, la critique publique, c'est pas sérieux parce que c'est pas des experts reconnus qui, puisqu'on ne sait pas qui c'est, qui font les articles. La vraie raison, mais je suis un petit peu méchant, c'est que ça coupe la rémunération des experts. Voilà. Critique des éditeurs commerciaux. Ben, c'est Nathan et Bordas, vous voyez, au hasard, Balthazar. Les éditeurs de manuels scolaires, évidemment, sont très hostiles dans leur discours public, mais ils ne peuvent rien, hein, sont très hostiles à l'existence de Wikipédia, en disant il n'y a que ce qu'on met dans nos bouquins qui est bien, puisque c'est nous qui les avons faits. Donc vous nous cassez notre business. Hein. Critique du parti pris de neutralité. Eh bien, c'est tout simplement que je reviens à Diderot. Hein, Diderot, dans sa préface de l'encyclopédie, a dit quand on écrit quelque chose, on exprime notre opinion, l'opinion de l'auteur. C'est une opinion, c'est pas un fait. L'encyclopédie, je parle pas des arts et métiers, hein, je parle pas des parties techniques, mais les parties plus philosophiques, puisqu'on a dit que l'encyclopédie, c'était l'encyclopédie des philosophes, ils exprimaient une opinion. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on les a combattus, parce que les opinions qui étaient sous-jacentes dans les articles de l'encyclopédie n'avaient pas l'heure de plaire au pouvoir en place, aux pouvoirs en place. Voilà. Et donc, le parti pris de neutralité, c'est un... Bon, on aurait pu avoir une autre vision des choses, mais c'est un principe qui a été mis dès le départ, et finalement, à mon avis, c'était un facteur de succès, parce que ça fait un certain équilibre entre toutes les sensibilités qui peuvent s'affronter dans l'outil. Critique du copyleft, ben, on revient toujours sur le business, c'est-à-dire vous laissez tout à disposition de tout le monde gratuit, c'est un scandale, ça casse le business. Et c'est encore majoritairement un outil anglo-saxon, donc il y a des fantasmes de certains en disant c'est un complot anglo-saxon pour faire le soft power, une mainmise du monde anglo-saxon sur les méninges du monde entier et tout et tout. Bon, je pense que les Français qui font leur fiche, ils n'ont pas leur cervelet qui est à San Diego. Ils font ce qu'ils pensent devoir faire le plus correctement possible sans se faire des nœuds au cerveau. Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, j'ai vu avec grand plaisir que dans les projets de 2013, il y aurait un développement d'un éditeur intuitif, c'est ce que j'ai appelé VisiVig, hein. Collaboration avec l'Inde, puisque vous savez que l'Inde, à Bangalore, il y a des cerveaux. Alors, est-ce qu'ils vont trouver des cerveaux gratuits, même si ça coûte pas cher? J'en suis pas forcément persuadé. Et ils commencent quand même à discuter avec les grands de ce monde, c'est-à-dire Google, Facebook, pour trouver des arrangements opérationnels, mais pas de l'argent, pour l'essentiel, des façons de promouvoir l'outil. Alors, j'arrive quasiment à la conclusion, et après on fait des travaux pratiques. C'est moins 5, hein, je fais... Oui. Je propose donc qu'on fasse un petit atelier Wikipédia, gratuit bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'animateur, puisque j'ai pris conscience en faisant l'exercice que j'évoquais tout à l'heure de la difficulté de que chacun, à titre individuel, se plonge dans tous ces outils qui sont quand même un petit peu compliqués, et plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre chacun dans son coin, eh bien qu'on apprenne au moins des choses basiques et qu'on travaille à pourquoi l'UTB. parce que nous sommes des universitaires, bon, patati patala, ok, d'accord, mais surtout, nous avons des activités, comme j'ai dit tout à fait au début, académiques, on va dire, nos recherches historiques, et on a besoin de pouvoir mettre des références et de faire des petits compléments par rapport à ce qu'on a trouvé dans des fiches. Voilà, alors, je vous propose rapidement, bon, Wikipédia, c'est vachement bien, c'est ce que vous aviez compris, et donc, on va aller sur Internet. Donc, je commence par Claude tiré Enoch tiré Sinet. Et alors, c'est génial, ça vient à la première ligne. Merci Google. Voilà. Bon, ben, là, manifestement, il y a un... Alors... Non, je... Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ça met un petit temps et la colonne de gauche n'apparaissait pas. C'est qu'il y a un problème de débit sur l'accès aux bases de données et donc ça met la page dépouillée, on va dire. Ça met le minimum. Et là, ça permet de voir les choses. Donc, vous voyez cette fiche. Bon, il y a une introduction, un sommaire, la biographie, 3 ou 4 paragraphes, une image, une bibliographie, des articles connexes, des liens externes, une note, des références et des portails. Quand nous avons fait la fiche, ça n'existait pas. Ça existait, ça se fait automatiquement. Et la présentation que vous voyez ici, avec les petits pinceaux, là, n'existait pas. Dans l'heure qui a suivi la création de la page, la petite fiche d'identité que vous voyez est apparue. Et quand on regarde l'historique, ça s'est fait automatiquement. On n'a rien fait. Il y a des programmes qui ont piqué les bonnes informations dans le texte lui-même, les dates de naissance, la date de décès, le lieu de naissance, crac, parce que il y a des outils qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans le texte, et automatiquement, ça a créé le petit truc, et ça l'a mis au bon endroit. Sympa, hein? Voilà. Et après, la dernière modification de cette page, le 20 juin 2012, à 12h11. Donc, alors, on va dire, ben, tiens, on a dû faire une modification nous-mêmes. Alors, on se précipite, évidemment, dans afficher l'historique. Et on regarde, alors, attendez, je vais... La page. Et on voit que quand on a fait notre fiche, on a accédé 4 fois à Wikipédia. Le 13 février 2012 à 16h52 jusqu'à 17h53. Vous allez regarder dans tout le reste, on n'y a plus touché nous-mêmes. On n'y a plus touché nous-mêmes. Et il y a eu 100 de modifications, soit faites par des individus, dont un s'appelle Monsieur X6. Voilà. Si vous voulez savoir qui c'est, ben c'est lui. Voilà. Bon, voilà. Et puis, il y en a un autre qui a été passionné par notre fiche, qui s'appelle GZEN92. Et un monsieur Chatsam. Ah si, il y a un gars qui s'appelle Yves Fournier, qui a fait une modification. Tiens, ouais, il y avait un... Voilà, donc vous voyez comment ça fonctionne. Alors après, vous dites, ben, je veux faire une modification. Comment on fait? Modifier. Et alors regardez ce que ressemble l'éditeur par rapport à ce que vous voyez sur la page. Alors le texte, c'est le même, Mais vous avez tout un tas de Schmilblick qui sont mélangés, par exemple plume, là. Vous avez des charabia de ce type-là. Vous avez ici en haut des petits traits comme ça. Vous avez tout ça. Vous dites, mais moi, j'ai pas tapé ça. Comment ça se fait? Comment faut faire pour ça? Ben, en fait, c'est le code qui permet de générer le petit tableau, si vous voulez. Et quand le robot a créé le petit tableau, il a introduit automatiquement toutes ces lignes de code qui vont bien. Donc, le principe du langage HTML, c'est un langage de marquage dans le texte, il faut mettre ce qu'on appelle des balises. Et des balises, c'est des petites choses comme ça, des croches carrés ou des accolades ou des doubles tirés ou des apostrophes ou des parenthèses, etc., etc. C'est là que je dis c'est un HTML simplifié, puisque dans le HTML normalisé, c'est encore bien plus compliqué. Donc ils ont pris des symboles plus... Le nombre de symboles est beaucoup plus réduit que dans le HTML normal, et voilà. Et donc, quand je veux faire, si je veux changer, par exemple, une date, si je voulais mettre 1610, ben là, c'est comme sur Word, je vais effacer le 0 et le 9, et je vais taper 1-0. Et donc, après, une fois que j'ai fait ça, je vais complètement en bas, et je dis, je suis pas sûr de mon coup, je veux voir si ça a bien marché. Alors, j'appuie sur le bouton « Prévisualiser ». Donc, ça me permet de voir quel va être le look de la page sans qu'elle soit encore validée pour être affichée sur dans Wikipédia. Si ça me paraît bien, bon, je suis très content, je rappuie sur le machin. Donc, il y a marqué « Publier ». Alors là, le « Publier ». Après prévisualisation, il est gris, tout simplement parce que j'ai fait aucune modification. Dès que je vais changer un seul caractère dans la boîte, là, ce bouton va apparaître comme actif, si vous voulez. Hein. Mais une fois que j'ai fait la modification, zut, en fait, je croyais que c'était bon, je me suis trompé. Ah, catastrophe, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que je fais? Alors, je reviens dans l'historique. Et là, je ne vois pas, il y a un petit bouton qui devrait...
Défaire.
Voilà, défaire. Ici, voilà, qui est un retour en arrière. C'est-à-dire, si je veux enlever ma modification, j'appuie sur défaire et je reviens à la situation précédente. Donc voilà le mécanisme vraiment hyper basique de fonctionnement des modifications sur Wikipédia. Alors maintenant, je vais, pour que ça ne dure pas trop longtemps, je vous montrerai deux autres choses pour vous montrer la notion de trou et d'article de qualité. On a fait un bouquin sur Viret, qui a été maire de Châlons, ça paraissait naturel de mettre notre bouquin en référence dans la fiche de Châlons. Donc, au hasard, Balthazar, hein, donc on va y aller, hein, Châlons-sur-Saône. Alors là, à tout honneur, le site de la ville apparaît en première ligne. C'est la moindre des choses, hein. Enfin, quand vous lisez la partie, par exemple, historique sur le site de la ville, c'est vraiment squelettique. Par contre, sympa quand même, en deuxième ligne, il y a Wikipédia. Donc là, vous avez Châlons-sur-Saône, et là, vous allez voir, ce que vous allez voir, vous allez dans l'histoire, il y a beaucoup de choses. Vous avez l'impression, la fiche Wikipédia de Châlons, elle est costaud. Hein, ben, en fait, pas tant que ça. Alors, j'y viens. Non, Je cherche l'histoire. Où est l'histoire? Voilà. Alors, première histoire, l'Antiquité, il n'y avait que deux lignes. Alors, il y a un utilisateur qui s'appelle Fournier, qui a rajouté quatre lignes, hein, et qui a pris en référence, par exemple, ça, une note de bas de page. Voilà. Histoire de Chalon-sur-Saône sous la direction de Pierre Lévêque. Parce que dans la fiche de Chalon, le bouquin de Pierre Lévêque, qui est l'histoire de Chalon la plus récente à ma connaissance, Monsieur Mallard, eh bien, il n'y était pas. Il n'y était pas. Ce bouquin n'existe pas. Pour Wikipédia. Maintenant, il existe. OK ? Alors, sur l'histoire de Chalon, sans mettre tout le livre de Lévêque dedans, on peut quand même un peu déployer. Parce que la partie, parce que je viens au deuxième bouquin, c'est le bouquin sur Chalon, l'industrie à Chalon. Donc je vais essayer de le retrouver. Voilà, donc voilà. Voilà. 16. Chalon-sur-Saône, le canal du centre et l'essor des industries mécaniques de la fin du XVIIIe siècle à 1984, page 68. Voilà. Puis après, on va dans le. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre la bibliographie, si. Voilà, si. Lucien Gandré et Jean-Claude Mallard, Chalon-sur-Saône, le canal du centre et l'essor des industries mécaniques de la fin du XVIIIe siècle à 1984, 2012, Université pour tous de Bourgogne, centre de Chalon-sur-Saône, 173 pages, ISBN, gna. Donc, c'est pas arrivé là par l'opération du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'était moi, vous avez compris. Et donc ça correspond à n'hésitez pas. Mais pour faire ça, ça demande quelques pratiques. Et à ce moment-là, quand vous regardez afficher l'historique, ben vous vous apercevez que les Chalonnais, bon, sont passionnés par... leur fiche de Chalon, mais enfin, quand il y a une modification tous les 4 jours, c'est que c'est une modification d'enfer. Hein. Donc, c'est pas terrible. Hein. Alors, je viens sur les Schneider, puisque il y a M. Debadreau, là, qui est dans le public, qui représente l'Académie Bourdon au Creusot. Hein. M. Debadreau, c'est un spécialiste de l'histoire des Schneider. Et donc, je lui ai fait remarquer que, évidemment, le bouquin qu'on a sorti, il est lié à Schneider. Alors, je dis, je veux savoir l'histoire des Schneider au Creusot. Alors, donc, plein d'enthousiasme, je tape là, Schneider. Ah, bien. Alors, je vois Schneider électrique. Bon, OK. Alors, famille Schneider. Bon, c'est pas tout à fait ce que je veux, c'est plutôt l'histoire industrielle. Bon, alors, je vais essayer Schneider Electric. Bon, ben, ouais, c'est pas l'électrique que je voudrais, c'est la partie métallurgique, enfin, mécanique et métallurgique. Ah bon, alors, Schneider Electric, alors, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a marqué là-dedans. Ah, historique, ah c'est bien, ça y est, j'ai trouvé. 1836, c'est en 1836, les deux frères participent à la révolution industrielle avec leur entreprise. Ça, c'est fort. Hein. Et entre 1836 et 1870, la seule information qu'il y a sur le site de Schneider Wikipédia, c'est ça. Ah voilà. Bon. Alors, ça m'énerve un peu. Hein. Donc, comment je vais faire? Ben, où je pourrais trouver mieux? Bon, alors, il m'embête, celui-là. Donc, je vais aller chercher les Schneider. Peut-être que on en sait plus sur les Schneider. Alors là, je trouve pas vraiment des Schneider. Alors, je reviens en arrière, donc je retape Schneider. Donc peut-être, je vais aller sur Schneider Electric, sur le site institutionnel de la société. Ah, alors, solution, support, bon, société, bon. Ça parle d'aujourd'hui, mais ça parle pas d'hier. Hein, support, accès client, société, carrière, société, solution. Bon, je suis pas très... ça me dit rien. Donc, je vais aller famille Schneider. Peut-être que là, je vais trouver la solution. Alors, famille Schneider. Ah, voilà, puissante dynastie de maîtres de force. Voilà. Bon, alors, je vais commencer par Adolf Schneider. Bon, ok, très bien. Voilà. Il y en a 10 lignes. C'est vraiment court, hein. Et puis, ça parle pas tellement, ça parle du personnage, mais ça parle pas de l'aventure industrielle. Alors, je dis, bon sang, faut qu'on trouve la solution. Donc, je vais aller sur le site du Creusot. Peut-être que sur le site du Creusot, c'est mieux. Alors, allez, on va sur le site du Creusot. Le Creusot. Wikipédia. Voilà, donc le Creusot, patati patata, héraldique. Ah, le Creusot jusqu'en 1836. Ah ben déjà c'est mieux. De 1836 je sais pas quand, parce que là, jusqu'en 1836, voilà, c'est ça, c'est avant les Schneider. 1836-1960, avec un effort gigantesque, il y a à peu près 30 lignes, quoi. Pas terrible. Il y a une thématique sur le paternalisme. Les grandes réalisations, bon, il y a 10 lignes. Les difficultés, bon, c'est bien. Et puis voilà. Oh, zut, alors. Bon, là, en désespoir de cause, Académie François Bourdon. Hein? Voilà. Alors, magnifique site internet de l'Académie François Bourdon. Bon, qui sommes-nous? Où nous visitons? Nous contacter? Patati patata. Alors, archives industrielles, exposition, culture. Qui sommes-nous? Accueil. On va chercher dans l'accueil peut-être. Ben, je suis dans l'accueil. Alors, qui sommes-nous? Peut-être on va trouver ça là-dedans. Reconnu, voilà. Voilà. François Bourdon. Bon, on a l'histoire de Monsieur François Bourdon. Alors peut-être qu'on va trouver archives industrielles, peut-être. Alors ça, c'est les archives de l'Académie François Bourdon. Alors je vous pose tout de suite la question. Y a-t-il une histoire des Schneider sur le site de l'Académie François Bourdon? D'accord, mais il n'y a pas de page détaillée sur l'histoire des Schneider. Alors, dans mon étroitesse d'esprit légendaire, moi je pensais que les Schneider, c'est quand même une saga incontournable dans l'histoire industrielle française. Et bien là, jusqu'à présent, à force de chercher dans tout ce qui peut concerner, et donc, pour moi, je considère que c'est un trou dans Wikipédia. Il n'y a pas une histoire détaillée de la saga creusotine dans Wikipédia. Oui, alors, justement, mais si vous pouvez tout trouver, on peut faire un site à la limite portail ou une page portail qui permet de réassembler des éléments épars, si vous voulez. Hein. Alors, bon, c'est le but de l'exposé, c'est pas de parler de ça spécifiquement, mais enfin, comme j'avais invité M. de Badreau, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter il y a quelque temps, alors si vous, qui êtes dans la salle, vous êtes les spécialistes des œufs de pétrel ou de, je ne sais pas quoi, d'une race spéciale de libellule ou de tout et de n'importe quoi, allez sur Wikipédia, regardez si les informations qui sont dessus vous paraissent déjà justes, et si elles existent, et si elles vous paraissent insuffisantes, vous les faites. Alors, pour remonter le moral des troupes, je vais vous montrer un article qui est considéré comme un article de qualité. Et ça, vous en prendrez la référence, parce que c'est pas complètement un hasard. Je vais essayer de le retrouver. C'est l'article qui est sur Wikipédia, qui s'appelle « Histoire de la production de l'acier ». Alors ça, je l'ai recopié dans Word. C'est pas sous le... Alors je peux le mettre directement dans le... Je vais le faire là sur Internet. Hein. Voilà, ça vient en tête. Alors, c'est un article historico-technique. Bon, on n'est pas forcément passionné par ça, mais bon, les spécialistes reconnaîtront des images bien connues, n'est-ce pas, le diagramme fer carbone. Je vais tout de suite là derrière. Il est très lisible et je vais tout à fait à la fin. Ah, vous voyez, des références, il y en a là. Hein, le ou les gars qui ont fait ça, ils ont bien bossé. Cet article est reconnu comme bon article depuis la version du 3 juillet 2010. Pour toute information complémentaire, consultez sa page de discussion et le vote l'ayant promu. Il est bon article. Il n'a pas la médaille d'or. C'est bon article, c'est médaille d'argent. Alors, si vous voulez voir, et je l'ai lu, c'est mon opinion et je le partage, c'est vraiment un bon article. Et c'est très pédagogique, c'est très bien fait, c'est très bien structuré, c'est très bien écrit, il y a les bonnes informations, ni trop ni trop peu. Donc, voilà. Comment ? Oui ? Dernière modif, 15 septembre 2012. Donc, on va regarder l'historique. De septembre. Regardez ça. 26. Alors, donc vous voyez que c'est un article. Pourtant, histoire de la fabrication de l'acier, c'est pas quelque chose qui, par nature, est de nature à évoluer d'une façon révolutionnaire. Mais disons, on peut ajouter des informations. C'est ce que les gens font, je suppose. Ils ajoutent quelques informations supplémentaires au fur et à mesure qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais il y a un effet aussi de boule de neige, c'est-à-dire dès que l'article est considéré comme bon, eh bien, les érudits vont dire, vont faire des efforts pour l'améliorer, pour qu'il s'améliore en permanence. Vous voyez, il y a un effet d'émulation qui se produit. Et il y a un gars qui s'appelle, je sais pas où il est, son machin, là, où on voit le nom du... Kilit. Non, c'est pas les mêmes. Hein. Canton de l'Est. Il y a un utilisateur qui s'appelle Canton de l'Est. Ça doit être Florange. Et après, vous voyez, discussion. Voilà. Alors, voilà, une discussion, sidérurgie versus acier. Donc, il y a quelqu'un qui dit, moi je changerai le titre de la page, je l'appellerai plutôt « Histoire de la sidérurgie » plutôt qu'Histoire de l'acier. Bon, alors, je vous fais grâce de vous lisez les arguments en faveur et tout. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, quand vraiment les gens veulent faire quelque chose de qualité, plutôt que de faire la modification sauvage, ils rentrent tout de suite sur la page de discussion en disant « Ben moi, je ferai soit une modification de la structure, je modifie le titre, je rajoute tel paragraphe, j'inverse plusieurs paragraphes, je supprime celui-là, etc. etc. » Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus, il a des réponses. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? Ce qui est en bleu, c'est une réponse. Et vous voyez que ça discute. Alors, il avait déjà été proposé comme article de qualité en 2008, et il a été refusé comme article de qualité. Et les gens ont dit pourquoi ils le refusaient. Donc vous voyez que derrière les pages Wikipédia, il y a une face cachée qui est extrêmement sophistiquée, et qui, si on a du temps, et qui s'en occupe. Mais alors, si vous voulez, l'idée, c'est que chacun, s'il a une... Parce qu'on ne peut pas papillonner sur Wikipédia. Vous, à titre individuel, vous avez un domaine sur lequel vous sentez que vous êtes pointu, eh bien, vous allez sur là où les pages qui concernent, vous y allez, et vous faites ce qu'il faut. Voilà le principe de Wikipédia. Et c'est comme ça que le système avance. Et il n'y en a pas besoin de beaucoup, puisque vous avez vu qu'avec 6000 modificateurs actifs sur 1 200 000 pages, ben la bête avance. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Oui.
Parce que dans le cas de l'histoire de Creusot,
oui.
On a des archives.
Oui.
Ces archives sont répertoriées.
Oui.
Elles sont la liste des articles sont.
C'est connu, mais c'est connu de vous seulement. Ah, vous les trouvez sur Internet. Ah ben, si c'est sur Internet, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Oui, c'est considéré comme publié.
Et alors, il y a un problème, c'est quand on a une source, on a un document unique.
Oui, ben, vous le dites. Oui, ben, vous le dites. Non, mais si vous dites, c'est au niveau du libellé du texte qui appelle la source, vous dites, une seule source nous donne cette information. Point barre. Ouais, c'est à vous d'apprécier si c'est si c'est intéressant pour l'ensemble de la communauté. Si c'est vraiment anecdotique, vous la mettez pas. Si c'est vraiment une information importante, mais qui est une source unique, donc qui est sujette à caution par nature, eh bien, vous le dites dans le texte, une seule source nous indique telle information. Puis c'est aussi simple que ça. C'est ça la neutralité du point de vue. Hein? Donc vous voyez, ça demande aussi un formatage un petit peu de notre façon de penser qui est pas naturel, on va dire, hein, qui est pas spontané. Si elle est, publiée. Voilà, voilà. Oui, oui, on doit pouvoir. Oui. Oui, oui. Non, mais après, là, vous tombez dans un autre problème, c'est est-ce qu'il y a des ayants droit qui peuvent faire blocage sur la divulgation de cette correspondance privée? Et non, si c'est suffisamment ancien, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on tombe dans le problème du droit d'auteur, quoi. Donc... bon, c'est toutes ces règles qu'il faut bien respecter. Mais enfin, tout ce qui concerne le 19e siècle, maintenant, c'est bon, hein. Il n'y a plus de problème, hein. Après un siècle, oui.
On est passé vite, mais aussi bien, d'ailleurs, les gens terminales, parce qu'on veut tout ce qui existe.
Oui. Non, mais écoute, pour ça, tu t'inscris à l'atelier Wikipédia, ça va être vachement bien, et tu vas tout savoir comment faire. Là, c'était la question qu'il fallait pas poser. Alors, si vous voulez, cet atelier Wikipédia, c'est exactement d'essayer de répondre au type de questionnements qui ont été évoqués dans les quelques interventions qui ont eu lieu. Mais si on est 25 dans l'atelier Wikipédia, on n'y arrivera pas. Donc, faut qu'on soit 6 maximum, si tu veux. Alors, ça peut changer. Hein. Qu'il y ait 6 présents, pas plus en même temps, parce qu'autrement, on n'a même pas le temps de parler. Hein. Ou alors, c'est moi qui parle tout le temps, comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, c'est pas interactif. Hein.
La pertinence d'un article.
Oui. L'historique, plutôt la discussion. Si vous voyez que dans la discussion, il y a beaucoup de remises en cause en disant ce qui est écrit dans tel paragraphe, ça n'a rien à faire là-dedans, ou c'est faux, ou c'est ceci, cela, donc vous dites, ben là, il y a un problème. Mais à la limite, dans moi, les quelques sondages que j'ai faits, parce que même moi, qui vais souvent sur Wikipédia, je ne vais pas toujours regarder la partie discussion, je regarde l'affiche. Hein. Alors, les quelques fois où je l'ai regardée, bon, dans 9 cas sur 10, elle est très maigre, la page discussion. Il n'y a pas de polémique. Hein. Alors, la pertinence, moi, je la juge sur les conférences que j'ai préparées avec Wikipédia. Je cite Newton, je cite Descartes, que je suis en train de préparer, enfin, que j'ai fini de préparer. Et j'ai pas tout fait avec Internet. J'ai acheté des biographies autorisées, enfin disons qui sont considérées comme pertinentes, les plus récentes. J'ai lu des bouquins de 1000 pages. Et après, en ayant assimilé ce bouquin de 1000 pages, je suis retourné sur la page. J'ai pas fait de modification, mais globalement, ce qui est marqué dans les pages Wikipédia, au moins pour les personnages historiques, c'est juste. Sauf une erreur de date ou de lieu ou des petits détails, mais enfin la trame générale est bien faite, c'est-à-dire le travail de délagage et de modification, il a été fait parce que c'est des fiches qui datent de 4, 5, 6 ans, et elle est stabilisée, elle est assez au point. Oui.
Est-ce qu'il y a des pages qui disparaissent de Wikipédia? Oui.
Oui. Alors, pas direct. Oui. Oui. Dans une page, chaque utilisateur a accès à tout l'historique de la page telle qu'elle existait. Par contre, s'il y a eu des modifications de liens et de changements de page alors ça, c'est des historiques qui sont accessibles uniquement au niveau des administrateurs. Et donc, mais si vous avez un doute en disant, ben tiens, moi je travaillais depuis 3 ans sur la page machin, je la vois plus. Où elle est passée? Eh bien, vous appelez votre administrateur chéri, vous lui mettez un mail, enfin, dans l'outil, là, vous lui dites, je recherche la page qui s'appelait comme ça. Dans l'heure qui suit, vous avez une réponse qui vous dit, ah ben non, je l'ai changé de catégorie, et puis on a changé le nom. Ou elle a été découpée en 3. Parce qu'il y a aussi une difficulté, si vous voyez, la page, si vous regardez bien cette page-là. Il y a une limite au système des pages, c'est quand il y a trop d'informations, ça fait une page qui est absolument gigantesque. Et ça devient finalement assez pénible à lire. Et donc, quand il y a trop de matériaux pour la mettre dans une seule page, les gens qui surveillent disent, par exemple, définition actuelle, vous avez article détaillé. C'est-à-dire, vous avez des sous-pages qui, pour désengorger un petit peu la page principale. Hein. Donc si je vais là, si je fais article détaillé, je clique dessus. Non. Attendez. Hein. Et voilà. Hein. C'est pas la production. Bon. Alors pareil, pour faire la modification, vous voyez que devant chaque, là on n'a pas le temps, faut venir à l'atelier Wikipédia, il y a le bouton modifier en face de chaque paragraphe. Parce que si à chaque fois que vous ouvrez l'éditeur, vous vous tapez un bloc comme ça, qu'il faut rechercher une ligne où il y a juste un chiffre à changer, c'est pas possible. Donc dans l'éditeur, avec cette page modifiée, il y aura que le paragraphe qui va s'afficher. Et vous ne modifiez que le paragraphe. C'est plus facile à rechercher. Bon, il y a tout un tas de petites astuces comme ça. Donc, est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Est-ce que vous aviez imaginé que tout ce qu'il y avait derrière Wikipédia? Pas vraiment. C'est pour ça que j'ai fait l'exposé, d'ailleurs, parce que ça, j'ai fait le pédant, là, mais je le sais que depuis quelques mois, parce que j'ai fait les recherches correspondantes au sein de Wikipédia. Donc, c'est la prise de conscience que de la sophistication, finalement, de l'outil qui m'a incité, d'une part, à faire cet exposé, et deuxièmement, à proposer un petit atelier où on s'apprendrait mutuellement à faire, parce que si vous faites pas ça, parce que les gars qui font ça, c'est des barjots, hein. Ils vivent derrière leur écran, machin, ils passent la journée. Bon, alors, j'aime bien, moi aussi, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur, mais enfin, il y a des limites au plaisir, hein, ou à la souffrance. C'est des gens, c'est des accros, quoi, c'est des geeks, comme on dit en français. Hein. Voilà. Et, alors, par contre, le niveau inférieur ou plus raisonnable auquel nous appartenons, plutôt que chacun apprenne individuellement à manipuler tout ça, et dans un petit atelier, on dirait, ben voilà, voilà comment on fait. Et comme et type d'exercice, ben, par exemple, enrichir la fiche de Chalon. Ça pourrait intéresser un tel ou un tel, ou une telle. Oui, 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 oui. Ben, oui, apprendre à rechercher, oui. Bon, vous en avez assez, moi aussi, donc merci d'être venu et à la prochaine. Donc, première conférence, mercredi prochain. Claudie Roget sur les impressionnistes à la Maison des syndicats. Voilà. Et je ferai de la pub pour l'atelier de Mathieu Pinette. Engagez-vous, rengagez-vous.